Muito boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos da parte da tarde desta conferência. Não foi possível estar durante a maior parte da manhã, mas sei que tem sido produtivo. É exatamente isso que nós precisamos, de ouvir as pessoas, de receber os contributos. Como foi anunciado a parte da manhã, o relatório será distribuído, o relatório que vai ser feito pela Sra. Deputada Teresa Damasio será distribuído, mas nos tempos que correm, o ideal seria a distribuição ser feita por correio eletrónico. Assim eu vou pedir às pessoas, se assim o entenderem, que escrevessem, doutora Teresa, passaria uma folha, para as pessoas escreverem o seu endereço e-mail, quem estiver interessado em receber o relatório, deixava o seu endereço e-mail pessoal para podermos enviar o relatório quando ele estiver pronto. Nesta, tal como consta do programa, vamos ter o prazer de ouvir Madame Fabienne Lallemand, a dita da Embaixada de França em Portugal, e que vai falar da experiência nestas matérias da gestão local das escolas e do sistema em geral em França. Como disse de manhã também, eventualmente as pessoas que não tinham chegado na altura, quisemos contar com a presença de um representante do Reino Unido, só que por razões de política interna, uma vez que vai haver eleições em Inglaterra e de acordo com a lei inglesa, durante um período anterior às eleições não há quaisquer atividades que ultrapassem a mera gestão, incluindo a deslocação deslocações de oficiais ao estrangeiro. De qualquer maneira, veio a nuvem que resolveu o problema. Madame Lallemand, soyez la bienvenue. Nous sommes très intéressés à vous écouter, à savoir ce qui se passe en France dans ce domaine. Vous avez tout le temps que vous voudrez. Après, les personnes qui seront intéressées poseront des questions. Nous avons de la traduction simultanée, alors il n'y a pas de problème, pour que chacun pourra et devra parler dans sa langue. Madame Lallemand, l'espace, la salle est à vous.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission de l'Éducation. Boa tarde. Excusez-moi pour ne pas parler suffisamment bien votre langue et pouvoir m'exprimer aussi bien que de nombreuses personnes et personnalités au Portugal en langue française. Mais je vous assure que mes efforts sont nombreux et que j'espère une prochaine invitation de la Commission de l'Assemblée nationale pour pouvoir faire une conférence en langue portugaise.
L'invitation est faite, madame.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis particulièrement honorée d'intervenir dans le cadre de cette Assemblée, dans le cadre de cette rencontre sur l'éducation prioritaire. Et nous avions pensé au niveau de l'ambassade de France à l'issue de la première réunion, et nous avons invité une experte, Madame Moison, qui auteur d'un rapport très très intéressant sur les questions d'éducation prioritaire en France, mais malheureusement pour des questions d'agenda, celle-ci a dû décliner l'invitation. Donc, en réfléchissant à cette question d'éducation prioritaire et ayant pour ma part travaillé beaucoup sur les questions d'éducation dans un contexte national et international, j'ai pour ma part décidé de répondre présente à l'invitation de la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale et d'essayer de vous présenter effectivement un petit peu l'état de la question sur l'éducation prioritaire en France. Et c'est vrai que c'est un thème qui est important, qui est celui de la réussite des élèves et de toute une partie d'élèves qui sont souvent en échec scolaire, avec de graves difficultés d'insertion professionnelle et d'insertion personnelle dans nos sociétés, et que cette question de l'éducation prioritaire est vraiment un thème qui est largement qui préoccupe toute une partie de la société française et qui préoccupe toutes les responsables politiques, les élus et l'ensemble, je dirais, des personnes impliquées dans le secteur de l'éducation. Alors, cette éducation prioritaire en France, elle fait vraiment débat. Et elle fait, je dirais, elle fait débat depuis son instauration. On va revenir sur les aspects historiques pour bien resituer finalement les différents débats. C'est la difficulté des systèmes éducatifs pour répondre aux difficultés scolaires, pour répondre à l'échec et à l'abandon scolaire. Et je sais qu'au Portugal, il y a beaucoup d'interrogations sur la question de l'abandon scolaire, sur la question de la sortie du système éducatif sans qualification, que c'est un souhait pour les responsables politiques et éducatifs de pouvoir remédier à ces abandons et de pouvoir mieux répondre aux difficultés, je dirais, sociales et scolaires de tous les ordres qui sont engendrées par ces situations. Alors, en France, quelle est la définition de... Comment est-ce qu'on définit l'éducation prioritaire ? L'éducation prioritaire, elle souhaite, c'est défini comme ça, être une réponse spécifique aux difficultés sociales et scolaires concentrées dans certaines zones d'éducation. Elle vise à corriger les conséquences des inégalités sociales, économiques et culturelles en renforçant l'action éducative là où l'échec scolaire est le plus élevé. L'éducation prioritaire, c'est donner davantage à ceux qui en ont le plus besoin. C'est posé, si vous voulez. Là, la thématique de l'éducation prioritaire est vraiment posée. Il y a un constat. Les élèves sont en difficulté. Les élèves quittent le système éducatif sans qualification. Les élèves sont confrontés à des inégalités sociales. Est-ce que l'école, effectivement, peut améliorer cette situation et permettre une meilleure insertion sociale, c'est-à-dire professionnelle, de ces populations parmi les plus défavorisées. On peut s'interroger, effectivement, pourquoi les systèmes éducatifs des pays développés, comme les nôtres, continuent-ils à investir massivement dans les systèmes éducatifs ? On sait tous que la part du budget d'un pays et des pays développés comme les nôtres est très très importante pour les systèmes éducatifs. Et nous continuons à investir massivement pour permettre effectivement une réduction de l'échec scolaire. Et là, si vous me permettez, je reprendrai les propos d'Éric Morin, qui est un sociologue français, économiste et sociologue spécialisé sur les questions effectivement de formation, d'éducation. Et il a écrit dans un ouvrage qui est paru en 2007, qui est intitulé « La nouvelle question scolaire, les bénéfices de la démocratisation », il disait ceci. Si l'école a bel et bien pour mission de donner à tous les moyens de s'insérer dans la société, d'accéder à l'autonomie et de s'y accomplir, elle doit non seulement former des citoyens éclairés et responsables, mais aussi s'inquiéter sérieusement des transformations du monde économique qui les attend. Nous ne pouvons plus, encore moins que par le passé, nous contenter de viser l'excellence pour quelques-uns, de sélectionner de petites élites et d'abandonner les autres à leur fragilité. Il nous faut, au contraire, penser un système éducatif capable de porter une large proportion de chaque classe d'âge à un niveau très élevé d'employabilité. De ce point de vue, l'objectif de justice sociale des politiques de démocratisation se double d'un objectif d'efficacité économique. Le débat est posé, d'une certaine manière. Le débat est posé. Dans nos sociétés démocratiques, nous visons à l'égalité, l'égalité des chances. Et pour nous, ça a été l'égalité des chances dans la France républicaine, un thème constant et un thème récurrent. Et je voudrais dire que depuis, finalement, Jules Ferry, il a marqué notre système éducatif français, qui est basé sur l'égalité des chances. Constamment, derrière, hein, il faut voir que le système éducatif français est traversé par cette question de l'égalité des chances et de la question de l'accès à l'éducation pour un plus grand nombre. Et c'est là que se situent les débats sur l'éducation prioritaire. Alors, c'est pour ça qu'il est très important de replacer cette question avec quelques repères historiques. Démocratisation de l'enseignement, prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans en France, 1959. Réforme et création du collège unique, 1975. La fameuse réforme Habille, hein, le collège unique, les filières, même filière pour tous. Accueil de populations issues de différents flux migratoires, très important dans cette problématique de l'éducation prioritaire en France. Tout ça a conduit les autorités éducatives françaises qui ont été confrontées à de nombreuses situations d'échecs et de difficultés scolaires, on y reviendra, à rechercher les causes et à mettre en œuvre des dispositifs spécifiques. Dans les années 70 aussi, différents travaux de sociologie ont mis en lumière le rôle déterminant de l'origine familiale, hein, dont, et plus particulièrement, le niveau d'instruction des parents et de l'environnement social pour la réussite scolaire dans notre système éducatif. Les enfants issus des classes ouvrières, des classes défavorisées, on va voir comment le problème s'est déplacé aussi vers les enfants issus des flux migratoires, avaient moins de chances d'accéder à l'université que les enfants des cadres et des catégories socio-professionnelles favorisées. Les difficultés sociales et scolaires, c'est ce que montrent les travaux de sociologie, se conjuguent et se renforcent Ça crée alors des conditions favorables pour l'échec scolaire. Et bien évident que dans une société démocratique, la question de l'échec scolaire et de l'abandon, pour nous, était difficilement acceptable pour une grande partie de la population. Alors, ces constats sont à l'origine de la création en 1981 par Alain Savary, alors ministre de l'Éducation nationale. Pour resituer dans l'histoire, Alain Savary, c'est le premier ministre de l'Éducation du premier gouvernement Mitterrand. Hein, c'est pour nous, historiquement parlant, ça a une signification forte. Et Alain Savary, justement, disait, lors de la création des zones d'éducation prioritaire, la démocratisation du système éducatif et la lutte contre les inégalités sociales doivent se concrétiser par davantage de moyens et surtout par une plus grande attention pour ceux qui en ont le plus besoin. Hein, c'est le discours d'Alain Savary lors de la création des zones d'éducation prioritaire en France. Alors, cette politique, elle marquait une rupture avec la conception traditionnelle de l'idée républicaine d'attribution des moyens de manière égalitaire. Ça a créé une petite révolution, ceci en France en 1981, parce que notre système éducatif, hein, c'est égalité des chances, égalité des moyens, mais l'égalité des moyens était finalement plus importante que l'égalité des chances. Donc, donner plus à ceux qui en avaient le plus besoin signifiait avoir une rupture dans les moyens qui étaient attribués aux établissements. Et ça, c'était une véritable, je dirais, rupture, révolution dans notre système éducatif qui donnait à tel endroit du territoire la même chose qu'à tel autre endroit, c'est-à-dire le même nombre de professeurs, le même nombre de moyens financiers, le même nombre de... Et tout était sur une vision totalement égalitariste des moyens. Alors, ça a mené à essayer de voir comment répondre aux questions d'échecs scolaires dans les établissements où il y avait, je dirais, de très grandes difficultés sociales. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, c'est pourquoi les premières zones d'éducation prioritaire ont alors été exclusivement déterminées selon des critères sociaux. Non pas éducatifs, mais des critères sociaux. Hein. On va voir les évolutions au fil des années. En 82, on crée 363 zones d'éducation prioritaire. 363, c'est-à-dire généralement des écoles primaires, écoles maternelles, écoles primaires et collèges. Si j'imagine vous situez tous dans l'organisation du système éducatif français, je le rappelle brièvement pour la clarté de l'exposition, de 3 ans à 6 ans, c'est l'école maternelle, non obligatoire. L'école est obligatoire de 6 ans à 16 ans. Elle se divise en école primaire, qui est du cours préparatoire jusqu'au cours moyen deuxième année, 5 ans, de 6 à 11 ans. Puis, c'est l'entrée au niveau du collège, hein, ce qu'on appelle, nous, le collège, qui correspond qui va de la 6e à la troisième, qui correspond ici de... laissez-moi faire les calculs. Sexto nono. Ça, c'est l'école. Avec, maintenant, depuis la loi d'orientation de 1989, avec différents cycles, cycle des apprentissages fondamentaux, cycle des approfondissements, cycle de l'entrée au collège et cycle d'orientation au niveau de la quatrième et de la troisième. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que très tôt, donc je reprends mon repère historique, très tôt, dès 82, on a 10,2% des collégiens et 8,3% des écoliers. Quand on dit écolier, c'est pour l'école primaire, collégien, c'est pour ce premier niveau de l'enseignement secondaire, qui sont scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire. Comment elles sont définies par des critères sociaux? Et comment elles se caractérisent? On améliore les taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professeurs. On réduit le nombre d'élèves dans les classes. On essaye d'ouvrir, mais ça n'a pas été vraiment un succès, le système éducatif sur l'extérieur. On verra pourquoi. Et on essaye d'intégrer les établissements dans une politique globale de la ville et des zones urbaines. On essaye d'élaborer un projet éducatif avec les acteurs, disons grosso modo les municipalités responsables, un petit peu les parents, mais pas encore complètement, tous les partenaires, ce qu'on appelle en France les socio-éducatifs, c'est-à-dire tous ceux qui faisaient de l'accompagnement éducatif, les éducateurs, les personnels dans une moindre mesure de justice, etc. Tout ce qu'est le partenariat de ville. Et on essaye effectivement de faire en sorte que ces zones d'éducation prioritaire s'intègrent avec les exigences en termes de programme de l'ensemble du système éducatif. Voilà les premières zones d'éducation prioritaire où on commence à être beaucoup plus sensible sur toutes les questions d'échec et d'abandon, et où on commence à mettre en place, je dirais, une vision un petit peu différente de l'intégration par l'école. La question en France, où l'école a toujours été considérée, dans le modèle républicain qui est le nôtre, comme très important, parce que c'est ce qui permettait l'ascenseur social. Donc, notre système éducatif, par définition, il devait être suffisamment construit, suffisamment élaboré, suffisamment égalitaire pour que les plus méritants, pour que les plus méritants, finalement, accèdent à des positions sociales acceptable, reconnu, et c'est pourquoi dans notre système éducatif, la question des concours a toujours été déterminante. Bon, elle est mise à mal actuellement, mais ça c'est un autre problème sur lequel on pourra revenir. Ces zones d'éducation prioritaire, dans les premiers temps, moi je me souviens en tant que jeune inspectrice, en 1985, avoir travaillé sur une zone très sensible à Gennevilliers, dans la région parisienne, où avaient été mis en place justement ces premiers systèmes. Et ça avait donné de relativement bons résultats, puisque les enseignants se sentaient, et les partenaires éducatifs se sentaient beaucoup plus responsabilisés. Et puis, au fil des années, on doit dire que les zones d'éducation prioritaire se sont progressivement délitées. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'intérêt de la part des responsables éducatifs. Il y a eu une absence de pilotage, hein, d'après les différents rapports que j'ai pu lire sur la question. Il n'y a pas eu assez d'implication, effectivement. C'est-à-dire que le système était très, très éclaté et chaque regroupement d'écoles faisait son, je dirais, son petit projet sans avoir une véritable cohérence. Certes, il y avait une réduction des moyens, mais il n'y a pas eu, au fil des années, suffisamment de cohérence politique sur la question des zones d'éducation prioritaire pour que ça donne des résultats efficaces. C'est pourquoi ça a conduit, en 1990, à avoir une première relance. Et une première relance qui a conduit à consolider et cette politique telle qu'elle avait été définie en 1981 et à mettre l'accent plus particulièrement sur la réussite scolaire des élèves. Avant, les critères étaient plus des critères exclusivement sociaux, hein, mais on commence progressivement à s'intéresser beaucoup plus à la réussite scolaire des élèves et aux dispositifs à mettre en place, à l'évolution des dispositifs pour que, je dirais, le parcours individuel des élèves soit mieux suivi et mieux construit dans ces lieux où se concentrent, je le rappelle, difficultés sociales, difficultés scolaires. Cette extension nous conduit en 1990 à avoir 557 établissements concernés. On passe effectivement, vous voyez, sur, en 8-10 ans, sur quasi un doublement des zones d'éducation prioritaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette relance? On réduit encore le taux d'encadrement, c'est-à-dire on baisse le niveau, on baisse le nombre des élèves dans les classes et on augmente le nombre de professeurs. On essaye d'avoir une politique de communication positive sur ces questions de difficultés scolaires, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer l'image et le fonctionnement des zones d'éducation prioritaire. Et on met, à ce moment-là, il y a un effort qui est fait pour améliorer la situation des enseignants. Et c'est, dès 1990, la mise en place d'indemnités spécifiques et de bonification du barème. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des enseignants qui soient plus volontaires pour participer à cet effort éducatif, et pour qu'ils soient plus volontaires, on leur donne effectivement des primes et on leur permet d'avoir une évolution plus rapide de la carrière, et c'est-à-dire une évolution plus rapide de la carrière, c'est-à-dire de quitter plus rapidement ces zones d'éducation prioritaire. Il faut être honnête. Parce que ce que, mis à part quelques enseignants véritablement volontaires pour aller dans ces établissements, prioritairement, c'était les jeunes qui étaient nommés dans ces établissements. Et on va voir que tout du long, il y a une très grande instabilité des équipes éducatives et que cette instabilité des équipes éducatives fait que la réduction de l'échec scolaire est très difficile. Et on prend là, alors à ce moment-là, cette année supplémentaire, pour arriver en 1997. Et on s'achemine progressivement, 1997, et on a là ce que l'on a appelé la deuxième relance de l'éducation prioritaire. Et cette deuxième relance de l'éducation prioritaire, elle va se traduire par une révision de la carte des zones d'attribution, des zones d'éducation prioritaire, et par la création de réseaux d'éducation prioritaire qui doivent déterminer pour les établissements un contrat de réussite. Voyez, on s'achemine, il y a une évolution aussi des termes mêmes qui sont employés pour l'éducation prioritaire. On passe de, effectivement, échec scolaire abondant à une vision où on a, va être maintenant de plus en plus centré sur la réussite des élèves, et ce n'est pas neutre dans les conceptions que l'on a de l'éducation prioritaire. Dans le cadre de ces 10 priorités nationales, que je vais vous commenter rapidement, on réaffirme la nécessité pour le service éducatif d'assurer un égal accès de tous au savoir. On reste effectivement dans une vision égalitaire. Tout le monde a le droit d'accéder au savoir qui doit être le même pour tous. Ça, c'est un principe de base. En 1997, on met l'accent sur ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire la maîtrise de la langue à l'oral et à l'écrit. On met tout en place toute une série de mesures très très spécifiques pour améliorer l'apprentissage de la lecture, pour renforcer les compétences de lecture et pour renforcer ce que l'on appelle, dans le jargon du métier, le lire, écrire, compter. On essaye d'encourager la scolarisation précoce. On entend par scolarisation précoce la scolarisation dès l'âge de 2 ans dans les zones d'éducation prioritaire. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que sur les publics défavorisés, plus la scolarisation est précoce, meilleure est la réussite. Donc, prioritairement, le ministère de l'Éducation nationale affecte des moyens pour avoir une scolarisation dès l'âge de 2 ans, et il arrivera, dans le meilleur des cas, à avoir effectivement, dans certaines zones d'éducation, plus de 50%, voire 60% des élèves de 2 ans scolarisés, ce qui est bien en termes d'accompagnement, de préparation au langage, etc. Ensuite, il cherche à assurer un soutien beaucoup plus personnalisé des élèves, un soutien des élèves les plus fragiles avec tout un accompagnement, études dirigées, études renforcées, petits groupes, voire à une certaine époque, dédoublement des cours préparatoires, c'est-à-dire de la première année où on apprend à lire et à écrire. Développement aussi des réseaux d'aide pour prendre en charge les enfants de manière beaucoup plus personnalisée, éventuellement en dehors des groupes classe. Ensuite, éduquer à la citoyenneté et à ce qu'on a appelé la morale civique. Parce que c'est aussi à cette époque où l'on voit énormément d'incivilité dans les établissements. Les incivilités qui vont d'ailleurs se multiplier. Point important aussi, c'est resserrer les liens de l'école avec les parents. Faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication et une meilleure intégration, une meilleure prise de conscience des parents aux enjeux de l'école et de la réussite scolaire de l'enfant. Ça, c'est un point sur lequel ça va être très, très important. Ça va être travaillé avec plus ou moins de succès. Ensuite, ça va être 97, cette deuxième relance, cette idée qu'il faut ouvrir l'école plus sur le quartier, sur les politiques de quartier. Dix ans après, ça sera largement remis en question par toutes les questions liées à la sécurisation des établissements. On va voir que ça a été un point de politique qui n'a pas porté vraiment ses fruits. Ensuite, essayer de mettre en place pour l'éducation prioritaire des indicateurs, et notamment des indicateurs de performance, pour mesurer les degrés de progression des élèves et des établissements. Et puis aussi, améliorer l'accompagnement des enseignants et créer les conditions d'un pilotage beaucoup plus performant, où on se rend compte finalement que la politique d'éducation prioritaire, elle ne peut pas être le fait de groupes uniquement de l'établissement, mais elle doit s'intégrer dans une politique plus vaste, hein, qui est notamment liée à la politique des quartiers, liée à la politique de la ville, liée à une politique plus ambitieuse en matière de réduction des inégalités sociales. 1997, ça a été aussi, et elle en a été à l'origine, un rapport déterminant qu'a fait une inspectrice générale, Madame Moisan, hein, et qui a bien montré, effectivement, à la fois les réussites et les échecs des zones d'éducation prioritaire. En 2000, pour vous donner un... voir les évolutions, hein, dans le cadre du système éducatif français, c'est 17,9% des élèves du primaire qui sont scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire et 21,2% du collège. C'est-à-dire que finalement, un quart des élèves du système éducatif français sont scolarisés en 2000 dans des zones d'éducation prioritaire. Un quart. C'est énorme, hein. Le ministère de l'Éducation continuait à s'interroger, effectivement, sur cette politique, avec toujours une demande très, très importante de réduction des moyens, de réduction des effectifs, d'augmentation des moyens, et finalement... plus les années passaient, plus il y avait de populations qui étaient concernées par les zones d'éducation prioritaire. Un vrai problème. On progresse dans le temps. 2005, la crise des banlieues. La crise des banlieues, elle a marqué, hein, au niveau international. Parce qu'il faut bien voir et concevoir qu'en France... les zones d'éducation prioritaire, c'est une question urbaine, hein. C'est une question des villes, c'est une question de la, je dirais, des classes sociales défavorisées, mais c'est aussi et beaucoup une question liée à la migration. Donc, zone urbaine, zone défavorisée, zone où les flux migratoires sont très importants. Mais avec, pour la France, cette volonté, effectivement, d'intégrer et de sortir, effectivement, dans le cadre d'un modèle républicain, le plus grand nombre vers une égalité des chances. Alors, cette crise des banlieues, en 2005, a conduit le système éducatif français à s'interroger beaucoup, beaucoup sur cette question de l'intégration par l'école. Est-ce que c'était les bons systèmes? Est-ce que nous avions les bonnes réponses? Si finalement, ce à quoi on aboutissait au niveau des banlieues, à ce qu'il soit mis au feu, que les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont brûlé à cette époque, il y a beaucoup d'équipements sociaux qui ont brûlé, beaucoup de bibliothèques, beaucoup de gymnases, tout ce qui permettait effectivement d'ouvrir les établissements scolaires des quartiers avec un certain nombre de propositions dans le cadre de la politique de la ville, a été vécue très très douloureusement. Et cette période a été vécue très douloureusement par les responsables des systèmes éducatifs, parce que c'était quand même une certaine forme d'échec. On avait 25%, pratiquement un quart des élèves scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire, et finalement le modèle avait tendance, tous les efforts qui avaient été faits en termes de réduction des effectifs, en termes de projets éducatifs, étaient mis à mal par ces crises. C'est pourquoi en 2006, il y a un nouvel élan qui est apporté pour l'éducation prioritaire. C'est alors Gilles de Robien qui est ministre de l'Éducation. Et on cherche à repenser le système. On cherche à repenser le système non plus uniquement à partir d'une logique de moyens, mais beaucoup, beaucoup plus centré sur les élèves et sur l'aide spécifique à apporter aux élèves, et pour avoir une action, je dirais, plus massive et plus déterminante sur les établissements qui en avaient, de fait, le plus largement besoin. Parce que la politique des zones d'éducation prioritaire, jusqu'à la relance de 2006, effectivement, ça avait été une extension des moyens, une extension des établissements placés sous ce sigle. Et finalement, on n'arrivait plus à déterminer exactement ce qui était nécessaire. Il y avait trop d'établissements qui étaient classés comme zones d'éducation prioritaire. Et en fait, ça créait une dilution à la fois des moyens et dilution de l'impact que pouvait avoir une véritable politique d'éducation prioritaire. C'est pour cela que c'est intéressant de travailler sur les évolutions pour voir que on n'a pas intérêt finalement à trop ghettoiser ni trop stigmatiser en mettant effectivement des références en termes de critères sociaux, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans une logique qui est contraire aux bonnes intentions que l'on avait au départ. Et c'est là où c'est intéressant effectivement de réfléchir sur qui est effectivement mis dans des zones d'éducation prioritaire, pourquoi, selon quels critères, selon et quel type de dispositif est à mettre en place. Alors, on continue effectivement au niveau du ministère de l'Éducation en France à avoir beaucoup, beaucoup d'interrogations sur quels sont les meilleurs dispositifs, quels sont ceux qui marchent le mieux, quels sont ceux qui permettent une meilleure réussite des élèves. Et on voit que sur 30 ans, puisque maintenant on a 30 ans de recul en matière d'éducation prioritaire, les politiques que l'on met en place et les dispositifs que l'on met en place ne sont absolument pas neutres, et que finalement ce sont des politiques qui nécessitent des ajustements constants C'est-à-dire que il faut être, moi, d'après ce que je comprends et des différents rapports que j'ai pu lire et analyser pour la préparation de mon intervention, c'est que il est très très important à la fois d'avoir un pilotage national, mais aussi un pilotage territorial et régional fort sur ces dispositifs, pour permettre de mesurer assez, de manière assez, je dirais, année après année, quelles sont les évolutions. Parce que ce qui me frappe, si vous voulez, dans la politique qui a été suivie en France, c'est que l'on a cru que la mise en place des zones d'éducation prioritaire allait résoudre les difficultés inhérentes à l'échec et à l'abandon scolaire de populations défavorisées, et qu'on a laissé le système se piloter tout seul. Et c'est le fait d'avoir laissé le système se piloter tout seul, effectivement, a conduit à son extension et à la dilution du concept d'une certaine manière, sans prendre les mesures, effectivement, qui permettraient, qui auraient permis de sortir un certain nombre d'établissements qui... sur lesquels les critères sociaux n'étaient plus forcément déterminants, et de réajuster les politiques. Il y a eu trop d'années où la reproduction stricte du dispositif a fait qu'on n'avait plus les moyens de le piloter. Alors, 2006, ça s'appelle « Nouvel élan pour l'éducation prioritaire ». Les termes ne sont jamais neutres, bien évidemment, dans ces systèmes-là. Donc, je vous disais, le système est repensé à partir d'une logique fondée sur l'aide à apporter aux élèves et l'action spécifique pour les collèges les plus en difficulté. La logique va alors, à partir de 2006, va consister à ne plus découper des zones, mais à s'intéresser prioritairement aux élèves selon des critères homogènes et beaucoup plus précis afin d'améliorer leur situation. C'est la fin du cycle de l'école de base, ce qui correspond à 6e, 9e année chez vous, qui devient l'unité de référence du réseau, et les écoles maternelles et élémentaires s'articulent autour de cette unité de référence qui est le collège. Parce qu'on s'est aperçu que le maillon faible du système, finalement, c'était véritablement le collège. Et c'est pourquoi les efforts, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux en sociologie de l'éducation, en économie de l'éducation, sur la question de la réussite des élèves. Et on peut dire qu'on a progressé et on a vu effectivement que le maillon le plus faible pour les questions de réussite scolaire, c'est vraiment ces années qui correspondent de la 6e à la 9e dans le système éducatif et pour ces populations. La maternelle, ça arrive à se résoudre s'il y a une scolarisation précoce. Le primaire, s'il y a des efforts qui sont faits sur les fondamentaux et sur la bonne maîtrise des fondamentaux, je m'explique sur la maîtrise de la lecture, sur la maîtrise du lire, écrire, compter, et le collège, effectivement, sur toutes les questions d'insertion, sur toutes les questions, effectivement, de renforcement des compétences pour permettre une scolarisation la plus longue possible. On va y revenir. J'ai encore un tout petit peu de temps. J'ai dépassé mon temps, mais je termine. Donc 2006, ce nouvel élan, et on va, le ministère de l'Éducation va donc déterminer moins d'établissements en éducation prioritaire. Il va en déterminer 254 seulement, et il va les baptiser collège ambition réussite. On n'est plus dans l'éducation prioritaire, on est dans collège ambition réussite. Et il va déterminer des critères nationaux pour définir la liste des établissements qui constituent ce niveau 1. Hein ? La situation sociale des familles, plus de 2/3 de catégories socio-professionnelles défavorisées dans les établissements, la part des élèves ayant un retard supérieur à 2 ans à l'entrée au collège, à l'entrée au niveau de la 6e, l'évaluation des résultats, l'évaluation des compétences et des résultats des élèves à l'entrée en 6e, avec toute une batterie de tests hein, qui a été élaborée et faite, et le nombre d'élèves non francophones, c'est-à-dire qui ne soient pas capables de suivre l'enseignement en langue française. Pour ces établissements, il monte les moyens humains et matériels de 10 à 15% hein, par rapport aux établissements traditionnels. C'est-à-dire que par rapport aux établissements, il y a encore une augmentation supplémentaire des moyens en professeurs et financiers. En termes d'équipement, en termes de pratiques culturelles et sportives, etc. Ensuite, ils mettent en place pour ces établissements un chef d'établissement supplémentaire, c'est-à-dire que généralement dans les collèges, vous avez un chef d'établissement qu'on appelle le principal et l'équipe éducative. Là, ils renforcent les moyens, ils mettent un chef d'établissement et un adjoint pour une équipe de 2 personnes, pour avoir un pilotage plus dynamique. Ils mettent l'accent sur la santé. Il y a une infirmière à temps plein qui est nommée. Infirmière à temps plein, un personnel de santé à temps plein, et toute la mise en place de politiques de prévention sur nutrition, hygiène, santé et sexualité. Ensuite, des informations spécifiques, des programmes sur les métiers, sur le marché du travail, sur l'entreprise, pour aider les élèves dans leur choix d'orientation. C'est aperçu que, effectivement, le contact avec l'entreprise, le contact avec l'orientation, le contact avec les métiers et avoir aider les élèves à avoir une orientation choisie pouvait aider en termes de lutte contre l'échec et l'abandon scolaire. Qu'est-ce qui est fait aussi hein, c'est un meilleur soutien, un meilleur suivi personnalisé des élèves, des séances d'études, c'est-à-dire après la classe, 2 petits groupes d'élèves pour avoir un suivi personnalisé, des stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires et des bourses au mérite. C'est-à-dire que les élèves qui ont de ces établissements scolaires, ambition, collège, ambition, réussite, qui ont réussi le brevet des collèges, c'est-à-dire à l'issue de l'examen à l'issue de la 3e année, reçoivent une bourse de 800 euros pour pouvoir suivre dans des établissements de type lycée. Enfin, sont créés ce qu'on appelle le niveau 2 des établissements des zones sensibles, hein, des réseaux dits de réussite scolaire, et puis un niveau 3 qui sont les établissements qui sont appelés progressivement à sortir du dispositif. Et chaque année, sont réexaminés, si vous voulez, les performances de ces établissements avec pour objectif de vraiment limiter le nombre des établissements et de mettre bien les moyens supplémentaires pour pouvoir arriver à une concentration de moyens pour un meilleur suivi de ces établissements. Alors, il y a aussi, au niveau national et régional, hein, un pilotage. Ça, le pilotage, les autorités éducatives françaises en ont vraiment pris conscience qu'il était nécessaire. Ensuite, il y a pour ces établissements un projet qui est mieux formalisé, c'est-à-dire il y a un diagnostic détaillé qui est fait. Hein, on définit pourquoi ces établissements, il y a tel et tel taux d'abandon scolaire. On définit des objectifs opérationnels et on met en place un programme spécifique d'action qui est chaque année analysé et réorienté. Très important ça. Ensuite, il y a eu des moyens véritablement importants qui ont été réaffectés. 1000 enseignants supplémentaires sur les collèges en ambition réussite, 3000 assistants pédagogiques aussi ont été mis en place. Et enfin, un essai avec les municipalités d'avoir une meilleure organisation du hors temps scolaire et d'autres mesures plus spécifiques qui est une meilleure intégration des parents dans l'école, avec une volonté effectivement d'avoir non plus seulement une représentation individuelle des parents, mais une organisation collective des parents d'élèves dans ces établissements, très important, et une bonne implication des politiques de la ville. Pas toujours un succès, il faut bien le dire, hein, puisque les problèmes continuent et demeurent. Enfin, un essai pour la mise en place de discriminations positives pour faire en sorte que les jeunes méritants issus de ces établissements puissent intégrer le système des grandes écoles, Sciences Po, les classes préparatoires, tout un système d'appui. Bon, discutable, mais ça, on pourra, si vous voulez, l'aborder dans le cadre des questions. Enfin, pour les parents, il y a des mesures qui peuvent tout à fait être intéressantes. Il y a des cours d'alphabétisation qui ont été mis en place pour les parents qui ne savaient pas lire et écrire de manière très, très systématique et des réunions extrêmement régulières pour assurer, je dirais, ce meilleur équilibre entre l'éducation donnée par les parents et l'éducation, instruction donnée par l'école. Autre accent important aussi, c'est la formation des enseignants. Et là, un effort, parce qu'on a pris conscience que la formation des enseignants, elle était quand même pas assez centrée, hein, sur toutes les questions de comment travailler avec ces publics, que la formation était beaucoup trop académique, et maintenant, dans les académies, hein, quel niveau régional qui correspond aux directions régionales, hein, de l'éducation ici au Portugal, un accent va être mis sur des formations pédagogiques pour ces publics, pour les publics qui sont difficiles, et notamment des formations à l'autorité, des formations pour essayer de réduire le niveau d'incivilité, de faire prendre conscience, de mieux gérer les conflits au sein des classes, et de permettre effectivement d'avoir pour les enseignants volontaires pour aller dans ces établissements, d'avoir un meilleur suivi individualisé des élèves. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que c'est toute une série de mesures, hein. Ce plan a été mis en place en 2006, maintenant il a un peu moins de 3 ans. Pour en mesurer les effets, il faut le mesurer sur une dizaine d'années. On va voir ce qu'il va donner. C'est vrai que dans les différents rapports que j'ai pu consulter, le fait d'avoir recentré les moyens a eu des effets sur un certain nombre d'établissements. Que maintenant la politique et la réussite est analysée établissement par établissement, ça nous donne des indicateurs importants sur quelles sont les politiques qui marchent le mieux, que tout ça est bien sûr extrêmement complexe à analyser dans la mesure où la situation dans telle zone sensible n'est pas la situation de telle autre zone sensible, que les critères sociaux et économiques sont particulièrement déterminants sur les questions de réussite scolaire. Donc tout cela est mis effectivement, je dirais, dans une moulinette pour essayer de voir quels sont les dispositifs qui fonctionnent le mieux, en tirer des bonnes pratiques et à ce moment-là les discuter, les proposer aux autres établissements pour faire en sorte qu'il y ait une réduction forte des inégalités scolaires et des échecs et abandons et une meilleure intégration de ces populations. Je vous remercie.
Merci bien, Madame Lallemand. C'est presque l'heure de faire une coupe. Vamos, provavelmente seria melhor fazermos o intervalo agora. Depois recomeçamos daqui a um quarto de hora. Recomeçamos com as perguntas. Como entretanto nas pastas só havia um boletim para inscrição, as pessoas que intervieram amanhã já não têm, mas existem ali umas fichas para preencherem. Aproveitamos o intervalo, quem estiver interessado em usar a palavra, agradecia que se inscrevesse para podermos fazer a distribuição do tempo. Então, interrompemos agora por 15 minutos, recomeçaremos às 4:30, sensivelmente.